Débats et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Depuis le début de la semaine, on dit pique-pendre des droits de douane imposés par Joe Biden à la Chine. Arrow sur le protectionnisme. Oui, sauf que l'Europe est sans réponse en attendant. Il y a bien une concurrence féroce venue de la Chine, notamment sur certains produits particuliers d'un monde de demain. Et nous sommes bel et bien sans réponse. L'exécutif s'apprête à dévoiler les contours de la réforme de l'assurance chômage. Ça devait être aujourd'hui, ça a été un peu repoussé. Mais désormais, on sait à peu près sur quels paramètres on va jouer. Moi, ça me donne l'impression que cette réforme est davantage pensée pour réaliser des économies plus que pour viser le plein emploi à l'horizon 2027. Vous êtes sûrement des habitués de l'émission, donc vous avez entendu l'extraordinaire créativité fiscale de mes invités tout au long de la semaine. On fera un petit bilan. J'ai plein de choses pour vous, plein de choses pour aller trouver des milliards. Alors, je leur ai quand même demandé hier, si vous étiez là, qu'un jour on consacre aussi 15 minutes, mais à essayer de trouver des économies et pas forcément des prélèvements obligatoires. Je ferai témoigner Laurent Vronsky, patron de PME, sur une initiative qui a été lancée par les CPME. C'est bien le reporting extra-financier et la norme européenne CSRD, dans sa version allégée. Oui, mais dans la réalité, quand il faut l'appliquer, comment ça se passe? Et puis Jean Castex a décidé de s'attaquer à l'absentéisme à la RATP, notamment à l'absentéisme des chauffeurs de bus un peu spécial. Le chauffeur de bus se trouve malade parce que le VTC lui permet d'arrondir les fins de mois. Mais la notion d'absentéisme plus largement m'intéresse, car c'est un vrai phénomène qui s'est accentué depuis Covid. Bonjour Céline Antonin.
Bonjour.
Bienvenue, économiste à l'OFCE. Vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po et membre du Cercle des économistes. On aura le plaisir de partager quelques jours à Aix, entre le 5 et le 7 juillet. Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Pas un jour sans qu'un auditeur ne m'écrive au sujet de l'existence de l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités pour frais professionnels. Je vous ai lu une réaction hier d'un de mes auditeurs qui expliquait l'origine de cet abattement. Mais là, cette fois-ci, c'est François. François m'écrit en disant qu'il est évidemment vent debout contre cette histoire de suppression d'abattement de 10% pour les retraités, qui est une idée émise par Gilles Berset il y a une quinzaine de jours. J'en entends parler tous les jours depuis. Et il dit par contre, vous ne parlez pas du joli abattement des journalistes de 30%. Alors, j'en parle pas parce qu'il n'existe plus depuis de nombreuses années déjà. Il a disparu, il a ensuite été remplacé par un forfait, et ensuite ce forfait a été placé sous condition de ressources, ce qui fait que ce forfait, qui effectivement accorde une baisse d'impôt sur le revenu aux journalistes, ne bénéficie qu'aux journalistes les moins bien payés. En tout cas, l'abattement de 30%, ça fait belle lurette qu'il n'existe plus. Et il me met, j'imagine que vous ne lirez pas ce message, mais si je viens de le faire, j'en reçois plein, donc j'essaye de faire réagir également ceux qui m'envoient des mails, et pas simplement ceux qui réagissent sur X. La concrétude avec Laurent Vronsky, un grand classique. Oui, je disais, face à la concurrence chinoise, alors, il y a les conditions sociales de production en Chine, les conditions environnementales de production en Chine, le fait qu'il peut y avoir un avantage compétitif de la Chine par rapport à d'autres pays, c'est la vie du business. La présence d'un État central qui accorde des subventions dont les montants sont difficiles à déterminer. Bref, on se trouve devant des circonstances où souvent le terme de concurrence déloyale est souvent utilisé. Vous avez, vous, des expériences avec la Chine? Ça n'est pas un pays comme les autres.
Ah non, ça n'est pas un pays comme les autres. Moi, je connais la Chine depuis 1996. Donc, il faut, si on revient en 1996...
Avant l'OMC.
Donc, vous faisiez 50 kilomètres en dehors de Pékin, hein, qui est la capitale. Il n'y avait pas d'eau chaude. Et quand vous tourniez le robinet, l'eau était marron. Donc c'était ça la Chine en 96. Et alors en l'espace de moins de 30 ans, on a un pays qui fait toutes sortes d'innovations, a rattrapé un retard absolument considérable, et ça par l'opération du Saint-Esprit. La réponse est non. Moi, j'ai tout à fait vécu ce qui s'est passé. Il y a eu du pillage technologique. On a forcé les entreprises occidentales à s'associer à des entreprises chinoises. Je rappelle qu'on n'a jamais su déterminer quelle était la part réelle du gouvernement chinois dans le secteur privé. On l'estime entre 70 et 80%. C'est assez large. Vous avez toute une série de sociétés...
70% de quoi ? Pourcent de...
Ben, c'est 70% des entreprises qui seraient détenues par le gouvernement chinois.
Ah, d'accord.
OK, mais bien sûr, c'est fait de manière intelligente. C'est un peu comme au restaurant chinois. Vous voyez, on ne sait pas toujours ce qu'on mange. Bon. et avec bien évidemment des secteurs qui ont été jugés comme prioritaires, alors aussi bien au niveau des subventions, vous avez des entreprises occidentales qui n'ont pas le droit d'exercer, qui n'ont pas le droit de faire certaines choses. C'est ça le contexte. Et nous avons été obligés, on nous a littéralement tordu le bras pour nous obliger à installer une unité de production en Chine au début des années 2000, ce que j'ai refusé. Donc c'était un chantage au risque de perdre le client. J'ai refusé pour les mêmes arguments que je viens d'avancer. Donc rien n'a changé. Le problème des voitures chinoises, c'est pas simplement qu'elles sont mieux faites et plus compétitives.
J'allais vous dire, il n'y a pas qu'un problème. Elles sont juste en avance sur les voitures électriques européennes.
Mais très bien.
À un moment où c'est pas uniquement que de la subvention.
Bien
elles
évidemment.
Elles sont fiables, elles correspondent au goût du consommateur universellement pratiqué à travers le monde. Elles sont bien designées, elles sont 30% moins chères.
Moi, j'ai pas de problème avec la concurrence. La preuve, on est une société exportatrice, on exporte 90% en dehors de la zone euro. Je le précise, donc je crois comprendre ce que c'est que la concurrence internationale. Voilà, et les différentiels de concurrence. Ça me va bien. OK? On est sur un match de foot mondial, avec un arbitre qui arbitre deux équipes, sauf que les équipes arrivent, pour certaines, avec leur propre jeu de règles. Là, ça m'a plu. Pour les voitures chinoises, ça marche aussi énormément à coup de subventions. On parlera tout à l'heure des normes européennes qui arrivent inlassablement depuis 10 ans. Je sais aussi comment ça se passe en Chine. Je veux dire que vous avez des normes qui sont assez élastiques et qui ne sont pas comparables à celles qui sont imposées aux entreprises occidentales. Donc quand on parle d'un avantage concurrentiel, il faut juste le décortiquer et bien comprendre quelle est l'origine de cet avantage concurrentiel. C'est pas simplement des ingénieurs chinois qui sont plus géniaux que les nôtres. Il y a des choses qui sont vraiment, je dirais, en périphérie. L'État chinois est spécialisé pour taper en dessous de la ceinture. Et je ne l'ai pas lu dans les livres, je l'ai vécu depuis 30 ans.
Ouais. Alors, il y a des réalités. Céline, on arrive au terme de la semaine. On n'a pas le début de la queue d'une réponse européenne à cette situation par rapport à ce que font les Américains. Tout le monde, tous les économistes ont le même diagnostic sur les conséquences de mesures protectionnistes comme celles qui sont prises. Excepté que,
Non, mais il y a
une réponse alors que là, il n'y en a pas.
Non, mais je suis très d'accord avec ce qu'a dit Laurent Vronsky. C'est vrai que si on... Alors, sans refaire l'histoire de l'ouverture économique de la Chine, hein, mais si on se replace par rapport à ce qu'a fait Deng Xiaoping en 1978, quand il est arrivé au pouvoir, c'est vrai qu'il y avait l'histoire des zones économiques spéciales, et l'idée était vraiment de s'ouvrir pour arriver à, quelque part, imiter et se développer grâce à l'enrichissement lié à l'import de technologies occidentales. Et en fait, les Occidentaux se sont un peu fait prendre aussi à leur propre piège. Je prends un exemple très concret, l'Allemagne, qui aujourd'hui connaît des difficultés et qui aujourd'hui a une balance commerciale donc qui est assez déficitaire avec la Chine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne, les constructeurs, par exemple automobiles, ont beaucoup investi en Chine. Alors, avec les modalités que vous indiquiez, c'est-à-dire souvent, ils étaient obligés de faire des joint ventures, enfin, ils étaient obligés vraiment de s'associer parce qu'ils ne pouvaient pas juste s'implanter en Chine. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils sont totalement concurrencés sur l'automobile. Et en fait, ce qu'ils avaient pris au départ pour finalement une Chine qui allait leur acheter des biens d'équipement, qui allait leur acheter un certain nombre de produits, eh ben, aujourd'hui, c'est eux qui porte davantage de biens chinois, en fait. Et ils se sont fait complètement concurrencer. Et donc, c'est vrai à l'échelle européenne. Alors après, par exemple, les États-Unis ont eu des mesures quand même assez courageuses. Hein. L'IRA, c'est pour le coup, c'est une mesure qui est assez forte. En Europe, nous, on a aussi quelques mesures, mais par exemple, je ne suis pas sûre que le Zero Net Industry Act soit capable vraiment de nous protéger. Parce qu'en gros, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée, c'est de dire que, par exemple, les autorités publiques qui vont acheter des panneaux solaires, ils vont avoir notamment la question du prix qui va compter, c'est-à-dire que ça ne va pas être qu'un objectif de prix, mais aussi un objectif de durabilité. Sauf que quand vous avez 30% de différentiel de prix, en fait, vous n'êtes plus obligé de prendre en compte ces objectifs de durabilité. Donc, en fait, ça ne va pas servir à grand-chose, les mesures qu'on prend à l'échelle européenne. Donc, moi, je trouve que les Américains, à ce niveau-là, sont plus courageux.
Alors, l'avantage comparatif de prix, l'avantage de prix des Chinois, c'est Robert Rivaton qui nous disait hier, globalement, si on ne va pas jusqu'à 50% de droits de douane en plus...
Sur les panneaux solaires, on a 35% de différence de prix. C'est énorme, en fait. Et donc, ça suffit pas à compenser. Et puis, il faut voir quand même que, par exemple, les Chinois dans le solaire, c'est 80% du marché, donc en fait, de l'énergie solaire. Donc, ils arrivent à nous concurrencer d'une façon. Et je pense que nos mesures ne sont pas assez ambitieuses vu le.
Mais on ne sait pas trop lesquels mettre en place.
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une question de, quelque part, de référentiel qu'il faudrait changer, parce que quelque part, au niveau européen, on reste quand même dans cette idée que la concurrence est toujours loyale. Enfin, je crois qu'on a du mal à se départir de cette idée que.
La concurrence pure et parfaite, c'est un mythe.
Voilà, mais je crois qu'on est encore sur cette idée. Il y a des grandes zones dans le monde qui l'ont compris que non, en fait, et qui n'hésitent pas à avoir des mesures protectionnistes. Nous, c'est un gros mot chez nous.
C'est difficile l'arbitrage, parce qu'on sait bien que c'est le consommateur qui paiera le protectionnisme à l'arrivée. Mais de toute façon, on ne pourra pas trouver d'entente au niveau européen. Jamais les Allemands ne seront d'accord avec les Français. Vous vouliez dire encore un dernier mot là-dessus. On en a beaucoup parlé cette semaine, on va vite avancer.
Je vais rajouter un dernier mot, parce que je veux dire, là on parle des mesures qu'il faudrait mettre en œuvre. Mais il y a déjà des normes, par exemple, qui existent à l'importation et qui ne sont pas appliquées, je le répète. Vous avez la norme la plus facile et la plus connue, que la norme CE. Quand vous allez acheter un produit, vous allez se marquer dessus, c'est une norme qui est auto-certificatrice. C'est-à-dire que vous, en tant que fabricant, c'est vous qui mettez la main sur la Bible et qui dites « mon produit est conforme aux normes CE ». Bah, écoutez, vous faites l'expérience, vous allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage, regardez les outillages chinois qui sont en vente, qui ont des notices qui ne sont pas dans la langue du pays, qui ont des tas de choses, enfin, il n'y a pas besoin d'être un grand ingénieur pour comprendre qu'il y a un problème de sécurité, et ça traverse les frontières de l'Union très librement, et pas depuis la semaine dernière, depuis des décennies. Donc, il n'y a pas besoin d'être créatif. Toujours la même histoire, les lois, on les a, mais il faut avoir la volonté politique et autres de les appliquer. Et ça n'est pas le cas.
Je vous raconte une anecdote. Enfin, j'étais dans un magasin de bricolage. J'avais besoin d'une petite machette pour élaguer des trucs. Alors évidemment, la machette chinoise, j'ai vu après en fait qu'elle était chinoise. Elle était beaucoup moins chère, la machette chinoise, qu'une autre machette d'une marque, je ne sais plus laquelle, mais enfin une marque que tout le monde connaît. Première utilisation, elle était morte en fait. Elle n'a pas résisté au truc. Elle était complètement gondolée, c'était une saloperie.
Mais vous avez des sèche-cheveux qui prennent feu, des dentifrices à l'antigel, enfin il y a eu un certain nombre de scandales.
Des ours en peluche qui sont pas très forts.
J'arrête de raconter ma vie. Mais bon, non mais il va falloir. Le truc, c'est que je suis un peu époustouflé par l'absence de réponse européenne.
C'est la faiblesse de réponse.
Un dernier élément.
Et même de réflexion sur comment faire. Parce que Jean-Marc Daniel, la taxe carbone, oui, mais la taxe carbone actuellement, elle est globalement inefficiente, et puis les délais de mise en place ne correspondent pas aux délais de conquête de marché.
Une dernière chose.
Oui, la dernière.
Il ne faudrait pas croire que les ouvriers chinois se nourrissent d'un bol de riz et sont payés $1 par jour.
Non, plus maintenant.
Les ouvriers spécialisés chinois aujourd'hui sont rares et sont chers. Donc on peut quand même se poser des questions sur le différentiel concurrentiel de 30% qui existe avec des coûts de main-d'œuvre qui sont maintenant sensiblement les mêmes dans certains cas. On ne parle pas des t-shirts fabriqués à 1 million d'exemplaires.
En tout cas, il y avait ce débat entre Emmanuel Le Chypre et Marc Fiorentino. Je l'ai entendu d'une oreille distraite juste avant de vous retrouver. Emmanuel Le Chypre défendait l'idée que le consommateur final, c'est lui qui bénéficie de cette présence de produits chinois qui, objectivement, sont de bonne qualité pour les voitures électriques et beaucoup moins chères. Et puis, la réponse de Marc était de dire oui, mais ce consommateur, il est aussi salarié de
ça. S'il perd son job...
C'est un équilibre macroéconomique qu'il faut voir.
La réforme de l'assurance chômage, monsieur Stéphane Carcy. On devait avoir les détails aujourd'hui. Bon, ça a été repoussé, mais globalement.
Sujet favori. Quoi? À chaque fois que je viens ici, je parle de l'assurance chômage. Mais c'est très bien, c'est l'actualité. Il y a une actualité forte,
et vous êtes probablement le premier expert du sujet parmi le panel des gens qui s'expriment dans cette émission, sur, en tout cas, cette thématique. Donc, au début, Gabriel Attal avait laissé entendre qu'on allait réduire la durée d'indemnisation, qui est passée à 18 mois en dessous de 53 ans actuellement. Alors on lui a dit, mais vous aviez dit que c'était contracyclique, qu'on serrait la vis uniquement quand ça va bien, regardez, le chômage repart à la hausse. Donc cette idée a été écartée, toujours dans l'idée qu'il fallait précipiter le retour à l'emploi. Et voilà que maintenant on nous explique qu'on va durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Peut-être que ça va être 8 mois exigés. Donc ça retarde le moment où vous entrez dans l'indemnisation. Et qu'on va probablement aussi allonger le délai de carence qui aujourd'hui est de 6 mois maximum. Tu sors d'une rupture conventionnelle, tu as eu une belle indemne. Bon, un délai de carence qu'on peut quand même... on n'accède pas tout de suite parce qu'on a quand même un petit matelas qui permet d'attendre. Si on allonge ce délai de carence de 6 mois à 8 mois, on retarde l'entrée dans l'indemnisation. Ce qui me fait dire, Stéphane Carcillo, que... Et ça a été l'objet d'un échange que j'ai eu sur BFM TV avec le Premier ministre Gabriel Attal. Vous êtes là pour faire des économies. Alors qu'on ne cesse de nous expliquer que la réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme pour accélérer le retour au plein emploi.
Mais Nicolas, les deux sont totalement liés.
Mais non.
Mais si.
Comment ça,
l'assurance chômage ne fait pas d'économies si le chômage baisse pas. Donc, toute mesure qui fait faire des économies à l'assurance chômage, c'est des mesures qui fait baisser le nombre d'indemnisés.
Non mais baisser, oui, mais c'est pas pour ça que le type qui est au chômage on lui met 8 mois de délai de carence au lieu de 6. Il est au chômage, il est simplement pas indemnisé, donc on fait des économies, mais c'est pas pour ça que son retour à l'emploi est précipité.
Eh ben si, parce que les comportements s'ajustent. C'est ce qu'on voit dans les études, dans les données.
C'est même vous qui m'avez dit que le paramètre le plus efficace, ça a toujours été la durée d'indemnisation.
Oui, alors la durée d'indemnisation, c'est efficace pour les gens qui sont au chômage, d'accord ? Par rapport à baisser le niveau d'indemnisation. Il vaut mieux faire 12 mois relativement bien indemnisés que 18 mois très mal indemnisés. Les gens sont plus sensibles à l'effet d'horizon. Donc ça, pour les personnes qui sont au chômage, le paramètre de durée, c'est plus efficace. Mais et ça joue sur l'intensité de recherche d'emploi et donc sur la probabilité de sortir vers un emploi. Mais il y a un autre paramètre qui joue, c'est effectivement les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire la durée minimale qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir ouvrir un droit. Mmh. Aujourd'hui en France, elle est de 6 mois, vous l'avez rappelé. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 12 mois. 12 mois. Donc à 6 mois, on est vraiment dans les pays qui ouvrent les droits le plus tôt. Et, plus fort que ça, on est aussi le pays dans lequel on accumule les droits le plus vite. C'est-à-dire que la pente est la plus rapide. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit d'avoir travaillé 24 mois pour avoir droit à 18 mois. Les autres pays, y compris l'Italie, l'Espagne...
6 mois, vous voulez dire. Travailler 6 mois dans les 24 derniers...
Non, pour atteindre le maximum. C'est-à-dire qu'en fait, 6 mois, ça ouvre un droit, mais il est relativement court. Il est de 6 mois, mais après... Enfin, un petit peu moins aujourd'hui, mais... Ensuite, quand on travaille, et si on arrive avec 12 mois... d'indemnisation, on va avoir 12 mois fois 75% aujourd'hui et à 24 mois on va avoir 18 mois, c'est-à-dire 24 mois fois 75% c'est les nouvelles règles. C'est très rapide comme accumulation des droits, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé relativement peu pour avoir droit à une durée maximale. Pour avoir droit à 2 ans de chômage aux Pays-Bas, il faut avoir travaillé plus de 30 ans. Ah. Juste en Espagne, en Italie, il faut avoir travaillé 2 à 4 fois plus longtemps que chez nous. Donc, c'est ça qu'il faut avoir quand même en tête. Bon, alors, les 6 mois, objectivement, si on passe à 9 mois ou à 8 mois, on reste en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Et je termine juste mon raisonnement. Pourquoi ça joue aussi sur le chômage et pas seulement sur les économies? C'est qu'en fait, ce qu'on sonde, on se rend compte, c'est que quand on change la durée minimale de travail pour ouvrir des droits, on change aussi, par miracle, la durée des contrats de travail moyenne à l'entrée au chômage. C'est-à-dire qu'en gros, les gens acceptent, ils ne tombent pas dans l'inactivité, ils continuent à travailler jusqu'à ce qu'ils ouvrent leurs droits. En fait, ils ont des marges de manœuvre pour soit demander une durée de contrat plus longue, soit accepter un renouvellement. Combien d'entrepreneurs vous expliquent aujourd'hui, mais partout dans les enquêtes, c'est à la fois des anecdotes, mais c'est aussi ça se voit dans les enquêtes sur les difficultés de recrutement. Combien d'entrepreneurs vous expliquent qu'ils n'arrivent pas à trouver de main d'œuvre parce que les gens expliquent qu'en fait ils veulent pouvoir accéder au chômage et donc ils n'acceptent pas le renouvellement du contrat. Ou alors ils vous
expliquent. Ce sont des comportements opportunistes que vous me décrivez
alors,
sachant que quand même au chômage on n'est pas riche.
Attendez,
au chômage.
On a passé la durée minimale de 4 mois à 6 mois il y a quelques temps.
Oui, absolument, c'était la précédente réforme. Oui.
Ça s'est vu immédiatement sur la durée, sur l'incidence des contrats à 6 mois. Et immédiatement, exactement les contrats à 6 mois. Exactement. Donc ça veut dire qu'en gros, vous faites ça, oui, vous faites faire des économies à l'assurance chômage, mais vous rallongez la durée des contrats moyennes et vous faites en sorte que les personnes acceptent des contrats plus longs. Et donc ça va jouer sur l'équilibre du marché du travail, c'est-à-dire la durée moyenne des contrats va augmenter. Et donc les gens ne vont pas tous tomber en inactivité. En fait, ils vont être beaucoup plus souvent en emploi et ça contribue aussi à réduire les tensions sur le marché du travail. Je veux dire, qu'on joue sur l'entrée ou qu'on joue sur la sortie, dans les deux cas, ça joue sur le taux de chômage, c'est pas que des économies. Moi, je pense qu'il faudrait jouer sur l'entrée et sur la sortie, parce que le marché du travail demeure extrêmement tendu. On n'est pas du tout dans une phase de hausse massive du taux de chômage. On est dans une phase extrêmement tendue du marché du travail. Donc c'est évidemment, on voit bien, beaucoup plus politiquement compliqué de dire qu'on va baisser la durée à 14 mois, alors qu'on est déjà baissé il y a 18 mois et que le chômage n'est plus dans une phase de baisse massive. On voit bien des éléments politiques, mais objectivement, quand on regarde le tableau d'ensemble, si on passait à 14 mois ou 12 mois de durée maximale, on serait encore au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. La durée maximale, c'est 12 mois dans les pays de l'OCDE. À 14 mois, 15 mois, on serait largement au-dessus. Donc il faut jouer sur les deux tableaux. Et les deux tableaux contribuent non seulement à faire des économies, mais aussi à réduire le chômage.
J'avais jamais entendu cette explication. Objectivement, c'est la première fois que...
Ah, mais il y a un papier...
C'est hyper clair.
Ah, mais il y a un papier magnifique qui s'intéresse justement au passage de 6 mois à 4 mois, ou de 4 mois à 6 mois, et qui montre l'effet... En l'occurrence, c'était le passage de 6 mois à 4 mois, quand ça avait été abaissé la première fois, et qui montre un effet immédiat sur la durée, sur l'incidence de la durée des contrats exactement au moment qui permet d'ouvrir les droits.
Céline Antonin.
Alors juste peut-être une réaction, c'est que vous parliez des Pays-Bas par exemple. Une des différences avec les pays nordiques, c'est que ça s'accompagne d'une formation en fait. Et c'est vrai qu'en France, moi je pense que c'est ce qui manque, c'est qu'effectivement quand vous êtes au chômage, vous êtes souvent un peu lâché dans la nature. Donc ça c'est à mon avis un vrai problème. Ouais. Un autre point, c'est qu'il y a une autre étude moi que j'ai en tête et qui à mon avis montre qu'il faut quand même différencier les gens qualifiés des gens moins qualifiés. Il y avait une étude qu'avait fait l'INSEE et qui montrait que quand on réduisait justement la période, la durée d'indemnisation, pour les personnes qualifiées, c'est vrai que ça se traduisait par une reprise d'emploi plus rapide. En revanche, pour les personnes moins qualifiées, il n'y avait pas de différence dans la reprise d'emploi. Donc en fait, ça faisait juste des gens qui étaient moins bien indemnisés. Donc je pense que là aussi, il y a un différentiel à faire. Et après, il y a une question, à mon avis. On évoquait le fait que le marché de l'emploi allait un peu mieux. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des secteurs. Donc je pense que c'est un peu compliqué de parler de façon agrégée parce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus en tension.
Réaction dans un instant, Stéphane, ouais. On marque une pause. Parce que justement, à propos de la dégradation ou pas, certes, il y a des tensions dans certains secteurs. Avant-hier, le commissaire européen aux affaires économiques a dit « Vous vous dirigez tout droit vers les 8% de chômage pratiquement en 2025. »
Oui, et c'est d'ailleurs...
Quand on parle de 7,1...
C'est l'hypothèse qu'on a à l'OFCE.
Et c'est l'hypothèse de l'OFCE. Vous réagirez sur la formation et sur l'état du marché. Et puis après, on ouvrira le concours à l'épine de la fiscalité. C'est toujours sympa, pour finir la semaine, tout ça. Pas tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance, avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Vous étiez deux ou trois pour l'écrire. Il y avait Philippe Aguillon et je sais
plus. Et Simon Bunel.
Voilà. Stéphane Carcillo, responsable de la division revenu travail de l'OCDE, avec qui nous sommes en train de décrypter la réforme de l'assurance chômage qui s'annonce. Professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles espérantes. Banlieue. Une auditrice demande les sources du papier dont vous parlez, Stéphane, là sur le papier magnifique dont vous parliez.
Je vais vous les envoyer. Je vais vous envoyer le papier précisément parce que je ne l'ai plus exactement tête, mais c'est un papier assez récent en fait, de cette année ou de l'année dernière. J'aurais pas dire une bêtise, donc je vous
l'envoie. D'accord. Par rapport à ce que disait Céline, et après je fais réagir Laurent Vronsky, déjà sur le retour vers l'emploi selon qu'on est qualifié ou non qualifié n'est pas forcément. C'est pas forcément la même histoire, et puis il manque peut-être la partie ultra accompagnement et formation que l'on observe dans les fameux pays du Nord.
Alors, juste sur la formation, si je peux me... Oui. Aujourd'hui, on a plus de problèmes, très peu de problèmes de financement de la formation pour les demandeurs d'emploi. Il y a eu avec le PIC, qui est un énorme effort d'investissement pour les demandeurs
d'emploi. Plan d'investissement sur les compétences.
Il y a eu quand même une dizaine de milliards d'euros qui ont été rajoutés. Le problème, c'est pas tellement ça aujourd'hui. En termes d'accompagnement, on peut clairement mieux faire, mais en termes de moyens pour les formations, les moyens sont là.
Oui, mais est-ce que c'est efficace? Moi, c'est ça, surtout.
L'efficacité de la formation, c'est encore un autre débat. Hein. C'est pas un débat qu'en France, mais...
J'avais vu un bilan du PIC, mais je l'ai plus en tête.
Non, le bilan du PIC, je le connais très bien, parce que je suis dans le comité scientifique. Le bilan du PIC, c'est surtout que c'est très dur de faire rentrer dans la formation les personnes les plus éloignées de l'emploi et les personnes qui n'ont pas fait d'études au préalable. Mais ça, c'est un autre sujet. En termes de moyens, ça existe. En termes d'effet, d'un raccourcissement, par exemple, de la durée ou d'une changement des conditions d'éligibilité sur la capacité des moins qualifiés à trouver un emploi. On n'a pas d'évidence empirique aujourd'hui. Objectivement, je connais très très bien le sujet. Les seules évidences dont on dispose, c'est un papier de Thomas Barbanchon qui regardait le fait de raccourcir la durée maximale d'indemnisation. Sur les personnes qui sont à bas salaire, ça ne changeait pas la qualité des emplois qu'ils trouvaient, ni en termes de durée d'emploi, ni en termes de salaire, et ni en termes de chances de retrouver un emploi. Donc c'est ce qu'on sait aujourd'hui. C'est des sujets sur lesquels on a quand même quelques éléments. Il n'y a pas d'évidence empirique pour dire que.
Il faut que je retrouve ce papier de l'INSEE. Alors à moins que ce soit, mais je crois pas que c'était le papier de Thomas Lebarbanchon. Mais il faut que je retrouve ce papier.
Et on entend dire aussi, après je donne la parole à Laurent, j'entends souvent comme argument, ah oui, mais si vous réduisez la durée, le gars qui était cadre, il va devoir accepter trop vite, donc un emploi qui est un peu moins qualifié que sa vraie qualification, ce qui fait que celui qui est encore un peu moins qualifié, ne lui rester que l'emploi moins qualifié, avec une espèce de dégradation en chaîne.
Ce qu'on voit dans les données, c'est que les gens cherchent 3 mois avant la fin de leur indemnisation, et que lorsque vous changez par exemple la durée, vous changez tout simplement, vous anticipez un peu plus la recherche d'emploi et les gens sortent plus vite sans dégradation de leur
l'âge, emploi. Par exemple, parce qu'il y a aussi une question d'âge. Il est plus difficile d'être réemployé à un certain âge que.
Alors chez les seniors, après 6 mois, de toute façon, il n'y a plus d'effet.
De la durée,
c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il faut que les seniors essaient surtout de rester en emploi, qu'on aide à les sortir du chômage très très rapidement.
Parce qu'après 6 mois, c'est mort.
En fait, après 6 mois, on voit une très forte baisse de la capacité à sortir du chômage. Et après, on passe dans un sujet qui est autre, c'est-à-dire est-ce que l'assurance chômage doit être là pour faire de la redistribution quelque part, indemniser plus longtemps, ou est-ce que c'est le rôle d'autres mécanismes. Voilà, ça c'est encore un autre débat.
Il y avait évidemment l'idée que l'assurance chômage ne devait pas être une espèce de caisse de financement de pré-retraite déguisée. Bon,
c'est important
quand on parle de l'assurance chômage parce que il y a en fait deux grandes réformes structurelles généralement dans une économie ressemblant à la nôtre, c'est retraite et assurance chômage en tête. Ce qu'on vient de se dire, Laurent Vonsky, réaction.
Alors moi je suis désolé, j'ai pas écrit de papier. Hein. Par contre, j'en signe des papiers, je signe des contrats de travail et je signe des annonces depuis 35 ans. Donc ça fait peut-être pas de moi un expert, sans jeu de mots, mais je pense connaître un petit peu le sujet. Ce qui me frappe, c'est que quand on écoute la démonstration brillante de monsieur, c'est du bon sens. Hein. Alors on a un peu intellectualisé le sujet, etc. Mais tous les managers, tous les gens qui ont cherché du personnel, qui ont embauché du personnel, savent très bien qu'il y a des effets d'aubaine et qu'il y a des gens qui sont devenus maîtres en la matière pour optimiser les choses. Il n'y a pas besoin, d'un raisonnement très intellectuel. Par contre, comme jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait pas de faux chômeurs, comme il n'y avait pas de faux arrêts maladie, enfin, tout ça n'existait pas, ça existait uniquement dans l'imagination de certains. Je traduis dans le vécu de certains. Bon, donc tout ça, on le sait très bien. Je veux dire que vous avez aujourd'hui des métiers où il n'y a pas besoin d'une grande formation. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs métiers du monde, mais après, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut avoir des gens qui sont au chômage ou est-ce qu'on veut avoir des gens qui soient en emploi ? Bon, je veux dire, aujourd'hui, vous faites le tour de tous les secteurs. Tous les secteurs aujourd'hui sont en mal de recrutement. C'est-à-dire que ça soit des bac plus 10, ou des gens qui sont, vous allez dans n'importe quel restaurant, hôtel, etc. Tout le monde cherche du personnel. Ce que dit monsieur, c'est du bon sens. Alors il y a une chose qui est toujours intéressante, et Dieu sait que j'aime la France, mais les Français pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que les autres. Et alors, quand on regarde l'expérience des autres sur ce que vous avez expliqué sur les réglages des curseurs, on voit très bien qu'on est avec des systèmes super avantageux. Puis après, on va se gratter la tête, regarder les étoiles, se dire tiens, on ne comprend pas pourquoi est-ce que on a des gens qui restent si longtemps, etc. Je crois que la démonstration a été faite. Donc, je voulais juste dire que il n'y a pas besoin d'accumuler les papiers. C'est juste qu'il faut avoir le courage politique de voir les choses en face et puis d'écouter les gens qui sont dans la concrétude. Alors, qui n'ont peut-être pas fait des belles matrices, mais qui vivent ça depuis très très longtemps. Et j'en fais partie.
Juste peut-être une toute petite réaction. En termes de... Alors, il y a une... Enfin, je ne suis pas d'accord avec une partie de ce que vous dites, mais il y a quand même aussi un problème de la part du recrutement, qui est en France de considérer que... Enfin, il n'y a pas que le fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui veulent aller vers certains emplois. Il y a aussi une tendance à considérer qu'il faut des salariés totalement formés quand ils vont prendre un emploi. Il y a un problème de formation parfois dans l'entreprise aussi qui se pose. Et c'est vrai qu'en France, si vous n'avez pas fait le diplôme lambda etc., eh ben, vous êtes parfois pas recruté. Vous parliez par exemple de la pénurie à Bac plus 10, etc. Vous avez aussi des Bac plus 10 qui cherchent et qui ont du mal à trouver un emploi. Moi, je travaille sur le marché du travail des docteurs. Dans l'entreprise, les docteurs sont très insuffisamment reconnus par rapport à l'étranger, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un problème de la part des entreprises de reconnaissance de certains diplômes. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'adéquation diplôme et emploi qui est à revoir. Je pense qu'il n'y a pas que le phénomène. Ce qui me gêne un peu, c'est de penser que un certain nombre de chômeurs sont en fait des feignants en puissance. Quoi. C'est pas non plus ça. C'est qu'il y a des gens qui veulent clairement adopter, avoir un emploi, mais ils ont aussi parfois des problèmes en termes de recrutement parce qu'on ne leur reconnaît pas la compétence qu'ils ont pourtant. Quoi.
Je rappelle la dernière étude juste de Pôle emploi, je crois que c'est de France Travail. Dans 83% des cas, ils ont identifié des gens qui étaient en recherche active d'emploi. Alors d'accord, ça en laisse 17% où il y a différentes attitudes. On n'est pas en train de dire ici qu'on a... Il doit y avoir 3 millions de personnes en catégorie A, truc comme ça. Il n'y a pas 3 millions de fainéants.
Je vais répondre à madame. Laurent, je pense que, si vous voulez, évidemment, il n'y a pas la réponse universelle. Là, je répondais par rapport à l'exemple qui est cité, où on explique, voilà, on va modifier les curseurs, donc du coup, on va avoir des modifications de comportement. Vous avez parfaitement raison, et j'en veux pour preuve que mon propre secteur, vu qu'on est la dernière entreprise française, il n'y a pas d'école du compresseur. Donc, trouver des gens qui sont des spécialistes du compresseur, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens qui ont la tête bien faite. Peu importe.
C'est très bien.
Et
très
après,
bien.
On les forme.
Mais il faudrait que plus d'entreprises raisonnent comme vous, parce qu'un certain nombre d'entreprises ne raisonnent pas comme ça et attendent des salariés totalement formés.
Mais vous avez des bons élèves de la classe et des mauvais élèves de la classe dans tous les secteurs, que ce soit au niveau des chômeurs, des entreprises, etc. Mais moi, je connais beaucoup de métiers qui sont des métiers très particuliers où les entreprises ont créé des écoles de formation en interne.
Il y en a, oui.
Et malgré ça, où les gens sont payés pour apprendre, ils n'arrivent pas à trouver du personnel. Alors après, sur les causes, on peut en parler jusque, je dirais, au lever du soleil. Mais c'est la réalité.
Oui. Non, mais après, je pense qu'il y a vraiment en plus un vrai problème de question d'adéquation entre la formation et l'emploi. On forme sans doute beaucoup de gens dans certains secteurs qui ne vont pas, enfin, qui vont avoir du mal à trouver un emploi. Donc là aussi, il y a une vraie réflexion à mener. Et d'autant plus, moi, je travaille beaucoup sur les questions d'intelligence artificielle. Il y a un vrai besoin là aussi de formation pour le futur. Et je ne sais pas si on a vraiment pris la mesure du nombre de personnes qu'il faudrait former pour occuper des emplois.
Il y a toujours un temps de décalage.
Oui, mais alors là, à mon avis, il est moins important. Et je pense que certains pays ont plus pris cette mesure.
Antoine m'écrit. Dans le secteur médico-social et hospitalier, cela existe depuis 20 ans de prendre des CDD et d'optimiser, écrit-il. Et puis il y a RMGT. J'ai arrêté de compter le nombre de mes étudiants de master, dit-il, qui ont été contraints de prendre des postes de technicien alors qu'ils sont formés pour un niveau ingénieur. C'est un gâchis de compétences pour récupérer des picaillons sur le budget chômage, écrit-il. Bon. Alors oui, si vous pouvez réagir à ça, après je voulais juste un mot sur le taux de chômage prévisible, mais allez-y. Oui.
Non, pour ceux qui sont intéressés sur la réaction des demandeurs d'emploi à la durée minimale qu'il faut avoir travaillé pour avoir des droits, et donc le papier est de Laura Couris, celui auquel je pensais effectivement, de 2022, Clément Brébon et Simon Briol. Voilà, un papier de recherche sur données françaises sur les précédentes réformes. Voilà, c'est un papier qui est en ligne, vous pouvez le trouver.
Et alors donc, prévision, on a quand même l'impression, même si le marché... Même si le marché, Stéphane Carcillo, reste en tension, et c'est vrai, et des secteurs sont en difficulté de recrutement très intense encore aujourd'hui, et c'est vrai, on a quand même fait 7,1 de taux de chômage, on est monté à 7,5, et là, on a maintenant à la fois Bruxelles et l'OFCE qui se rejoignent sur une perspective fin 2024, début 2025, entre 7,8 et 8%. Ça commence à être de la dégradation, là. On n'est plus sur... un marché qui reste dynamique quand même.
Écoutez, je suis le marché du travail en ce moment est extrêmement tendu, mais le chômage ne baisse pas, ce qui est relativement peu surprenant parce qu'on a quand même une croissance qui est très faible, donc sous l'effet des taux d'intérêt. On prévoyait déjà 8% fin 2023, on les a pas atteints. On est surpris de
trimestre. On prévoyait 8% fin 2023.
Oui, enfin certaines prévisions étaient à presque
8%. Prévisions antérieures.
Prévisions antérieures, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on court un peu après le marché du travail ne cesse de nous surprendre par sa résilience en ce moment. Et donc, je suis
à la productivité aussi.
Probablement du fait des pertes de gains de productivité
les gains de productivité, il y a des problèmes structurels et des problèmes purement de comptabilité conjoncturelle. Bon. Moi, que la productivité baisse parce qu'on garde des emplois, je vois pas où est le sujet. Donc, c'est simplement une question de calcul, quoi. La productivité, vous divisez le PIB par le nombre de personnes qui travaillent, et si le PIB ralentit, mais qu'on garde suffisamment de travailleurs.
Un million d'apprentis, c'est sûr que ça fait baisser la
Non, mais je veux dire, c'est des gens qui sont en emploi. Donc, je pense que, objectivement, c'est pas un sujet. Je crois qu'on est très surpris par l'évolution du marché du travail en ce moment. On est surpris de trimestre en trimestre par sa résilience. Donc voilà, je serais pas très surpris qu'on soit également en dessous des 8% à la fin de l'année et que le chômage reste relativement stable.
On s'est régalé cette semaine sur les questions budgétaires. Comment trouver les milliards qui nous manquent? Alors on a eu déjà 10 milliards annoncés par décret à peine l'hiver terminé, puis 10 nouveaux milliards qui sont sortis de nulle part, habilement construits pour éviter d'avoir à les inscrire dans une loi de finances rectificative qui imposait d'aller affronter les oppositions parlementaires et de se prendre une veste. Donc 20 déjà, et puis on dit on va vers 20 ou 25 en 2025, on va vers 20 ou 25 en 2026, vers 20 ou 25 en 2027, parce que si on veut tenir les 3%, comment faire? Et je dois reconnaître que cette semaine, mes invités ont été puissants. Donc je vous donne un petit résumé de ce qui a été proposé dans cette émission. Je les ai quand même traités de sado-fiscalistes, en reprenant la fameuse expression de Jean-Marc Daniel. Donc taxer le patrimoine du 1% les plus riches, à 2%. C'était Christian Chavagneux, ça. D'imiter la TVA, qui est imitée dans tous les sens, c'est vrai, qui d'ailleurs en moyenne est plus basse que les autres pays d'Europe, et en remontant les taux réduits. Aligner la CSG des retraités sur le reste de la population. Supprimer le fameux abattement de 10% pour frais professionnels dont bénéficient, entre autres, les retraités, ce qui a fait tant réagir et ce qui sans doute va continuer. Sous-indexer les pensions de retraite en 2025, au motif qu'en 2024, l'indexation totale à 5,3% représente 14,5 milliards d'euros de dépenses. Taxer plus l'héritage, rétablir la taxe d'habitation. Ça, c'était Romain Rivaton qui disait ça hier. Je ne sais pas si ma liste est exhaustive de la semaine. C'est joli, Céline Antonin.
C'est un catalogue à l'après-vert.
Je ne sais pas combien j'ai de milliards, là, en fait. Oh, je dois bien en avoir 20, 25. Enfin, non, même Christian Chavagneux, il dit qu'on fait 45 ou 50 milliards avec sa taxe sur le patrimoine.
Alors, peut-être une première réaction qui est que, bon, vous savez, hein, ça commence à devenir récurrent chez moi, mais c'est vrai que le côté viser les retraités commence un peu à m'agacer, enfin, même beaucoup.
Répétez-le, s'il vous plaît, répétez-le.
Oui, ça m'agace.
Ils sont très agacés aussi.
Mais c'est vrai que ce qui est agaçant, c'est que alors déjà, il faut quand même. Alors il y a l'histoire de l'abattement de 10%. Il y a aussi l'histoire qui revient du fait de dire que grâce à l'indexation, effectivement, ils ont gagné en pouvoir d'achat. Je rappelle quand même qu'on a indexé les retraites sur les prix. Plutôt que sur les salaires parce que c'était moins avantageux pour eux, donc ça date de Balladur,
oui, en fait,
c'est 93. C'est 93, et justement c'est parce que c'était moins avantageux. Or là, on a eu une période d'inflation qu'on n'avait jamais connue, donc je veux dire, ça a été un phénomène assez exceptionnel. Donc il se trouve qu'ils ont été gagnants pour une année. On voit que l'inflation
après avoir
a quand
été
même,
perdant
pendant des années, bon, on voit que l'inflation a totalement reflué. Donc je trouve que c'est quand même de très mauvaise foi d'aller dire, ah ben regardez, pendant une année ils sont gagnants, donc c'est des grands gagnants, et ce sont des grands nantis. Donc dans ces cas-là, on indexe les salaires, les retraites sur les salaires, par exemple. Alors, il faudrait voir quel salaire, est-ce que c'est le salaire moyen, est-ce que c'est le SMIC ? Parce que là aussi, je rappelle qu'il y a des inégalités dont on ne parle pas, mais il est vrai que si on regarde même les salaires, vous avez les salaires du bas de la distribution, le SMIC, qui est indexé sur l'inflation, donc qui a beaucoup gagné les SMICards ont gagné en pouvoir d'achat. Ça a été beaucoup moins le cas des salariés moyens, puisque eux n'ont pas eu une indexation sur les prix. Donc là encore, on va pas, et je ne considère pas pour autant que c'est des nantis. Donc je trouve que voilà, c'est malvenu, surtout que dans les retraités, c'est une catégorie assez hétérogène, c'est des gens qui ont travaillé, c'est un revenu de, c'est pas de l'assistance, hein. On a un peu tendance à considérer aussi que c'est une logique d'assistance, alors que c'est une logique assurantielle, je le rappelle, c'est des gens qui ont travaillé et qui aujourd'hui touchent un revenu de remplacement. Donc pour un certain nombre de raisons et d'autres que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, je trouve que c'est quand même malvenu. Je pense que s'il y a un effort à faire, il doit être collectif. Alors après, sur ce que vous évoquiez sur la fiscalité, la TVA ou quoi, pourquoi pas, hein, après tout, si on doit supprimer un certain nombre de taux de TVA réduits dont on pense qu'ils ne sont pas légitimes. Bon, ça ne me choque pas. Autre possibilité
sur... Romain Rivaton citait la TVA à 5,5 sur les poney clubs.
Autre possibilité sur les recettes, moi par exemple sur l'impôt sur le revenu, après tout, pourquoi pas, on a une tranche marginale supérieure qui est à 45%, après tout, pourquoi pas mettre une tranche marginale supérieure très très élevée à 50 ou 55%. C'est le cas d'un certain nombre de pays du Nord qui ont un modèle social assez comparable au nôtre, donc après tout, et c'est pas des pays communistes non plus, donc pourquoi pas. Si on regarde par exemple le rapport interdécile en France, il est plutôt plutôt faible. C'est-à-dire que si on regarde les 10% de la population de revenus les plus élevés comparé à la moyenne, on est autour de 3,4. Donc en fait, c'est pas énorme. Mais au sein du décile supérieur, c'est-à-dire des 10% les plus riches, vous avez une très grande inégalité entre le 0,01%, disons, et les 10%. C'est-à-dire que voilà, vous entrez dans la tranche des 10%, vous n'êtes pas très riche. En revanche, vous avez un gros écart. Là, je rappelle les travaux, même de Piketty, etc., sur ces questions.
C'est là donc, où se fait le gros. Oui.
Voilà. Et donc, éventuellement, si vous mettiez un taux marginal supérieur, mais élevé, c'est élevé, hein, je veux dire, après tout, pourquoi pas, ça ne me choquerait pas. Et après, la deuxième piste, c'est effectivement potentiellement de réduire les dépenses, mais en le faisant sur un certain nombre de. Alors là, pareil, hein, vous avez la taxe. Enfin, ça, c'est la fiscalité sur l'histoire de la taxe d'habitation, mais vous avez un certain nombre de niches aussi fiscales sur la résidence principale. Sur... Enfin, pourquoi pas, hein, on peut remettre aussi tout ça à plat.
Mais... Réduire des dépenses fiscales, c'est comme monter des impôts.
Oui, c'est vrai. De toute façon, in fine, ça revient au même. Oui. C'est vrai. Mais par exemple.
Ne pas distribuer de l'argent ou en prélever plus.
Mais si on fait une vraie rationalisation, on a eu l'occasion de l'évoquer ici, sur la politique de formation, sur le crédit impôt recherche, qui est sans doute mal employé, qui est trop large et qui n'est pas assez ciblé, etc. Il y a des tas d'économies, en fait, à mon avis, à faire. Mais il faut, à ce moment-là, réfléchir dans un cadre beaucoup plus large et pas faire l'apprenti sorcier avec quelques catégories de population qu'on aura, à mon avis, très injustement ciblées.
Ah bah c'est très clair. Laurent, sympa la liste. Effectivement, c'est beaucoup plus simple d'imaginer ça que d'imaginer des remises à plat de dépenses publiques avec derrière la notion d'efficacité. En se disant, je ne vais pas pouvoir dépenser autant là, parce qu'il m'en faut pour le vert, il m'en faut pour les vieux, il m'en faut pour le numérique et l'IA et tout ça. Et donc, il faut bien que je trouve, dans mon jeu de bonneteau, que je réussisse à répartir différemment la dépense publique tout en remettant les choses à plat sur ce que doit faire l'État et ne pas faire l'État. Enfin, la réforme de l'État, quoi, bref.
Moi, je dois dire que je suis assez surpris que ces esprits brillants et créatifs partent d'une hypothèse qu'on ne peut pas réduire le budget de l'État. Ça, c'est pas possible. C'est la loi en or massif, et puis on peut pas la rendre plus efficace. Donc, on entend parler que taxe. Donc, c'est une véritable fiscalité punitive. Alors, quand vous commencez comme ça, évidemment, chacun commence à pointer du doigt. Ben non, c'est pas moi, c'est toi. C'est exactement ce dont on a débattu en début d'émission. Alors, toi, t'as un avantage plus important que le mien, etc. Je veux dire, encore une fois, je crois que les exemples abondent. Je veux dire, on est tous des consommateurs de services publics, je suis désolé, mais l'État au niveau des services publics régaliens, que tout le monde consomme, je veux dire, est en perte de vitesse, ça coûte de plus en plus cher, et c'est de moins en moins bon. Donc de dire, on touche à rien...
À tel point que ça devient complexe à expliquer d'ailleurs.
Alors, je pense aussi, c'est exactement comme le chômage, ça fait partie de ces sujets qui sont politiquement incorrects, il ne faut surtout pas parler de ça, et au contraire, on va désigner des coupables. Alors évidemment, les coupables choisis... C'est les riches, et on commence par eux. Évidemment, c'est lenti.
Vous n'allez pas aller taper sur les gens qui sont au seuil de pauvreté ou à un SMIC.
Mais justement, le but de mon propos, c'est plutôt que de choisir la cible et de dire on va taper sur lui ou sur lui ou sur lui. Alors là, un coup c'est les riches, un coup c'est les retraités, un coup ça va être ci, un coup ça va être ça. Moi je dis on tape sur personne. Parce qu'avant de se dire on va taper sur les gens, on va déjà essayer un petit peu de se creuser la tête et de voir comment on dépense. Dans une entreprise, on va me dire, oui, mais l'État, c'est pas une entreprise. Eh ben si, je suis désolé, n'en déplaise, il y a des parallèles. Si nous, nos coûts augmentent de 25%, et que je dis à mes clients, bonne nouvelle, les prix augmentent de 30%, je sais où ça se termine. Ça se termine, je dirais, au cimetière des éléphants. Sauf que là, on est les otages. Nous sommes des otages fiscaux. Alors, on va dépenser, puis après on va dire, voilà, mesdames et messieurs, vous n'avez pas le choix, nous avons voté telle chose. Je pense qu'il y a aussi une véritable colère de la part de tous les acteurs économiques, c'est pas que les chefs d'entreprise, parce que nous payons tous des impôts. Même celui qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, quand il achète une baguette de pain, il faut s'en souvenir, vous achetez une baguette de pain chez un boulanger, vous payez de l'impôt.
Et si vous avez un revenu, même exonéré d'hier, vous payez la CSG.
Donc, j'en finirai avec ces propos. Si on réduit la dépense publique, tout le monde va en bénéficier. Et il ne faut pas croire, parce qu'à chaque fois, on nous brandit l'épouvantail. Ah oui, mais attention, si on réduit le budget de l'État, il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus d'hôpitaux, Laurent, et ça sera la révolution dans la rue.
Une réalité quand même, c'est que quand on entend le budget de l'État, il y a la fonction publique d'État, hospitalière et collectivité locale, on entend souvent dire que sur le budget de l'État, on est à l'os. La réalité, c'est que si vous comparez le budget de l'État français par rapport au budget des États nous ressemblant, il n'est pas si élevé, le budget de l'État.
Non, c'est la territoriale
et dépenses sociales.
On est d'accord.
Là, avec Stéphane...
Mais on a fait un millefeuille administratif avec des tas d'échelons qui sont duplicés, etc. Et on s'y attaque
exactement.
Pas.
Donc,
en pensant qu'on allait faire des Stéphane économies... Garcia, effectivement, on a fait les grandes régions en disant qu'on allait faire des économies, on a fait zéro économie. On a fait les communautés de communes en pensant qu'on allait faire des économies. Les toutes petites communes continuent à avoir des... Donc, on rajoute des échelons et ça ne se traduit pas par des économies en matière d'effectifs qui sont quand même une grosse part des dépenses de l'État. Hein, c'est 50%, je crois, de mémoire, les dépenses d'effectifs.
La masse salariale, 50%?
Je crois qu'on doit être à peu près à ce niveau-là de mémoire. Mais c'est quand même un gros élément. Et donc, évidemment, il faut se dire, quand on fait des réformes où on est censé réduire le millefeuille, mais qu'on rajoute une couche au millefeuille, ben voilà, sans QFD. Réduire les effets en dessous, parce que vous comprenez, les élus locaux, voilà, c'est très important, etc.
Il y a beaucoup d'idéologie, en fait, parce que voilà, il y aurait des moyens assez simples de rationaliser.
Voilà. Donc je pense qu'on a des dépenses qui sont absolument prioritaires, la santé, l'éducation, le numérique et aussi la transition écologique, qu'il faut préserver. C'est des choses absolument essentielles et en même temps on voit bien qu'on a des inefficacités importantes dans le fonctionnement de l'État auxquelles il faut s'attaquer. Il faut beaucoup de courage pour faire ça, mais quand on regarde les autres pays, on voit qu'on a d'énormes marges d'amélioration dans ce domaine. Du côté des dépenses, de ce type de dépenses-là.
Tout à fait. Et puis, il faut vraiment redéfinir le champ du régalien et des quelques dépenses d'investissement qu'on a envie de faire.
Non, mais il serait temps. Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que l'État ne doit plus faire? Mais c'est la réforme de l'État que personne... Tout le monde en parle depuis des années, personne ne l'a engagé. J'en ai d'autres à des idées fiscales. Tous les élus en ont plein en ce moment. Les rachats d'actions, les rentes inframarginales de certaines activités.
Oui, mais en plus, ça, c'est pas des réformes structurelles. C'est des réformes, je veux dire, conjoncturelles. C'est comme un peu le fait de dire il y a un problème, on donne un chèque, etc. Ça aussi, à mon avis, il faut en terminer avec cette logique un peu d'État nounou qui donne des chèques et qui ensuite se dit bah voilà, enfin voilà, à mon avis, on peut pas continuer comme ça de façon soutenable. Enfin,
moi, j'aurais juste complété les propos de monsieur. Je suis pas un spécialiste par exemple de la santé, mais je veux dire que quand vous avez plus de gens dans les bureaux que dans, je dirais, aux urgences ou dans les salles d'hôpital, il n'y a pas besoin de faire 12 ans d'études en médecine pour se dire qu'il y a un problème. Et cet exemple-là, je crois que nous tous, les consommateurs du service public, on le voit partout. Je veux dire, vous parliez des régions, alors on a créé les communautés de communes. Vas-y, je te recolle une surcouche. Vous arrivez dans des bâtiments publics, dans des régions, vous avez les auditoriums qui pourraient accueillir, je dirais, je ne sais pas moi, la population moscovite. Vous voyez, tous ces trucs-là, ça coûte un argent phénoménal. Donc avant de dire, les retraités ont moins de retraite, lui, je pense qu'il y a des économies considérables, c'est du bon sens. Dans une boîte industrielle, si vous avez plus de gens dans les bureaux qu'à l'usine, il y a un problème.
Oui, c'est le cas dans l'hôpital, c'est le cas dans beaucoup d'endroits.
C'est le cas à l'éducation, c'est le cas, il y a plus de gens dans les bureaux que dans les écoles, donc etc. etc.
Mais surtout dans l'encadrement administratif qui est
ahurissant. À un moment donné où un certain nombre de ces tâches devraient être totalement automatisées.
Ils vont peut-être l'être d'ailleurs.
On a une source d'économie là dans la digitalisation et l'automatisation des tâches qui fait que par exemple à l'hôpital, le nombre de tâches administratives et déclaratives, y compris des médecins qui s'en plaignent régulièrement. Ils passent une partie de leur temps important à faire ça.
Ça les prive du soin d'ailleurs.
Et ça les prive du soin. Tout ça devrait être un investissement très important à faire sur l'automatisation, la digitalisation de toutes ces tâches-là. Je pense qu'il y a des freins qu'il faut absolument lever dans ce domaine.
Et mieux payer et récompenser les gens qui le méritent, qui sont sur le terrain.
Je vous cite juste, tout récemment, François Eckel a tenu un discours, puisqu'il a été, décoré par la République, ce qui me semble tout à fait normal. Et alors, il y avait cette phrase dans son discours qui s'appelait « serment budgétaire ». C'est joli, quand même. Voilà. Comme l'écrivait Tocqueville à propos de l'Ancien Régime, le gouvernement ayant pris la place de la Providence, il est naturel que chacun l'invoque dans ses nécessités particulières.
C'est joliment dit.
Comme quoi, c'est pas nouveau. Ben oui, mais c'est joliment, c'est bien dit. Comme quoi, c'est pas nouveau. 2 minutes 4, on pourra pas tout faire. Bienvenue dans le monde merveilleux de la CSRD. Vous avez commencé à toucher à la CSRD, Laurent Vronsky, la CPME vient de lancer mener une expérimentation avec 11 PME tests pour voir vraiment ce que c'est dans la vraie vie, la concrétude, que d'appliquer le reporting extra-financier imposé, même sous sa forme allégée, par l'Europe.
Bah oui, CSRD, c'est super rébarbatif et difficile. Et moi, ce que je crains, le vrai problème, c'est pas la version allégée. Bon, je rappelle, je ne vais pas rentrer dans le débat, sinon ce n'est pas 2 minutes qu'il nous faut. Hein. C'est que vous avez énormément de réponses qui sont subjectives. Ça veut dire que vous avez 2 personnes qui regardent, vous avez 3 avis. C'est que quand vous avez des grosses sociétés qui sont vos clients et qui, elles, vont devoir répondre, je dirais, aux centaines et aux centaines de critères, vous pensez qu'elles ne vont pas imposer ça à leurs sous-traitants? Mais bien sûr que si. Et donc finalement, la version allégée pour les PME, mais je veux dire, ne verra pas le jour. Parce que vos clients vont vous imposer toutes ces questions auxquelles eux sont assujettis. Et ça, je pense que c'est ça le vrai problème.
Il y a le devoir de vigilance aussi, là, vous avez vu, au niveau européen. C'est-à-dire le fait de... C'était à la suite du drame qui s'était déroulé au Bangladesh il y a quelques années, là. Il y a eu l'effondrement d'un site. Et donc, on impose maintenant une entreprise qui est présente sur une chaîne de valeur mondiale de bien vouloir connaître exactement toutes les conditions sociales et environnementales telles qu'elles se passent dans chaque pays pour pouvoir en faire un reporting complet.
Bah, donc, c'est bien, on peut faire ça pour les voitures chinoises, par exemple. Vigilance. Les voitures électriques chinoises. Ça serait intéressant.
Eh bien oui, mais elles ne sont pas européennes. Alors, quand elles seront construites en Europe, probablement qu'en Hongrie, BYD devra respecter un devoir de vigilance. Et vous vous souvenez de l'histoire merveilleuse de Sylvain Aurébi qui avait raconté que l'Europe avait mis en place des nouvelles règles pour la constitution des arômes. Et lui, pour l'été, il utilise des arômes. Et donc, avec des trucs très stricts. Mmh. Tout doit être bio, vert, éco-responsable, en circuit court. Sauf qu'il y avait 50 délais pour les non-européens.
On a le temps d'en boire.
Voilà. Ah, mince. Bon, et ben on va être absent pendant deux jours, c'est le week-end. On n'aura pas parlé de l'absentéisme, Stéphane Carcillo. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, des X.
Des papiers.
Des papiers. Je reçois des courriers aussi. Généralement, quand je reçois un courrier écrit à la main avec une belle écriture, je me dis « Ah, je sais que ça va me parler de, ça va me parler des retraites. » Parce que c'est quand même un réflexe qui n'est plus tellement présent chez la jeune génération que de poser un timbre sur une enveloppe et de prendre sa plus belle plume pour...
Et pourtant, c'était un beau réflexe.
Et oui, il faut reconnaître que d'abord, l'écriture est belle et c'est bien écrit en plus. Mmh. Et souvent, il n'y a pas de faute d'orthographe.
En plus.
Voilà. J'essaye de me réconcilier parce que la semaine a été dure. Merci d'avoir défendu les retraités. Céline Antonin avec nous aujourd'hui, Stéphane Carcillo.
Non, et puis alors, il y a un dernier point, c'est vrai que, enfin, je le dis
mais
très
là, on
rapidement.
A fini, hein, mais...
Oui, non, mais c'est sur l'histoire aussi du risque dépendance, pareil, dont on ne parle pas du tout, qui va à un moment donné nous arriver en boomerang. Et je pense que d'appauvrir les retraités, à un moment donné.
Oui, c'est pas une bonne idée, oui.
C'est pas une très bonne idée.
Et Laurent Vronsky, donc aujourd'hui avec nous, on se retrouve lundi à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.